Vous écoutez RTL.
RTL.
J'ai qu'une envie, c'est de ne pas être vaine. Donc je veux être utile et je veux voir comment l'être au mieux.
Vous les femmes, vous les charmes.
Il y a une chose que je refuse, c'est qu'on me catalogue parmi les people. Je ne suis pas ça. J'ai le droit d'avoir ma vie aujourd'hui.
Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile, non.
La curiosité est un vilain défaut.
Quand quelqu'un m'a dit, je ne compte pas passer les années où mon mari est président de la République à m'occuper que de moi, à parler que de moi, je voudrais beaucoup investir cette fonction autrement.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
L'Élysée et les femmes, c'est notre curiosité du jour. Bonjour Joël Chevet.
Bonjour.
Bienvenue, très heureux de vous retrouver dans notre cabinet de curiosité sur RTL. Vous êtes historienne, passionnée de la place et du statut des femmes dans notre société. L'Élysée, c'est un palais de la République, évidemment, le palais que tous les hommes politiques rêvent d'habiter un jour. Tiens, avant de raconter l'histoire de certaines de celles qui y ont occupé des rôles parfois très importants, ça ressemble à quoi les appartements privés de l'Élysée ? C'est sympa à habiter ? C'est spacieux ?
Alors, à quoi ils ressemblent ? On les visite pas.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en dit ?
Ce qu'occupe actuellement le couple présidentiel actuel, donc celui des Macron, l'appartement a été refait par Carla Bruni. Je pense que Madame Macron y a apporté quelques améliorations sans doute. Mmh. Enfin, elle avait fait tout refait faire dans un style qui était assez, je dirais, moderne et assez classique. Alors qu'auparavant, c'était peut-être plus personnalisé, en particulier sous les Pompidou, qui évidemment avaient fait faire des choses assez délirantes, dont en particulier une salle de bain avec une douche qui tournait sur elle-même et qui a vraiment stupéfié ceux qui leur ont succédé.
Est-ce qu'ils se sont forcément plus, si on parle, ensuite on va remonter loin dans l'histoire, mais des derniers couples qui ont vécu à l'Élysée, Sarkozy, Hollande, Macron, tiens par exemple, les Sarkozy, est-ce qu'ils s'y sont plus ou est-ce qu'ils vivaient ailleurs ?
Mais ils n'y ont pas vécu,
mais voilà.
Les Sarkozy. Alors évidemment, de temps en temps, ils ont passé quelques nuits quand éventuellement il y avait des cérémonies qui se terminaient très tard, bon très bien, mais ils n'ont pas vécu à l'Élysée, ils vivaient chez Carla Bruni, donc dans le 16e arrondissement, rue Pierre Guérin dans un hôtel particulier, donc, et également à la Lanterne pour les week-ends. La Lanterne, c'est quand même, voilà, depuis Nicolas Sarkozy et depuis que Cécilia avait trouvé que cette maison de poupée lui plaisait, il a supprimé donc la Lanterne au Premier ministre, il l'a attribué à la présidence, et depuis, c'est vrai que tous les couples présidentiels aiment passer leur week-end à la Lanterne.
Alors, est-ce que ces femmes aiment l'Élysée ? On se souvient, Joël Chevet, que Bernadette Chirac aimait cet endroit. Est-ce que Brigitte Macron est dans le même état d'esprit aujourd'hui ?
Alors, il faudra peut-être lui demander un petit peu plus tard. Par contre, comme Bernadette Chirac, elle a souhaité y entrer. Et elle a souhaité vivre à l'Élysée, ce qui n'était pas le cas donc du couple Hollande-Valérie Trierweiler et auparavant Sarkozy. Donc elle a souhaité y rentrer. Elle songeait déjà aux aménagements qu'elle y ferait, à la façon dont elle pourrait y vivre. Alors, encore une fois...
C'est un peu tôt pour savoir si elle s'y plaît vraiment.
C'est un peu tôt pour savoir si cette fameuse malédiction de l'Élysée va aussi jouer pour Brigitte Macron.
Joël Chevet, vous publiez L'Élysée au féminin, hein, aux éditions du Rocher. On y croise évidemment Yvonne de Gaulle, tante Yvonne. Comment l'ont surnommé les Français à l'époque et que disait-elle de l'Élysée ?
Ah, alors Yvonne de Gaulle, de toute façon, à part la boisserie, hein, pas de salut. Donc, elle est rentrée à l'Élysée en femme soumise. De Gaulle non plus, avait pas du tout envie de s'installer à l'Élysée. C'était la maison de la Pompadour, donc ça, il y avait des relents là de luxure et qui lui plaisaient pas du tout.
Mais d'ailleurs, Yvonne de Gaulle, il faisait régner un certain ordre moral.
Voilà. Mais alors, c'est là où les premières dames ont eu, à un certain moment, on ne pourrait plus l'imaginer aujourd'hui, une autorité morale qui ne leur était pas vraiment contestée.
Ça veut dire qu'elle interdisait quoi, par exemple, Yvonne de Gaulle, au sein de l'Élysée ?
Elle ne recevait pas les couples divorcés, les couples qui éventuellement étaient adultères. Elle se faisait composer des petites fiches sur tous ceux qui étaient invités.
Alors, elle ne recevait personne, du coup, évidemment.
Non, alors, évidemment, elle n'a pas pu s'opposer, en effet, à ce qu'on reçoive, en particulier Brigitte Bardot, que de Gaulle a regardé d'un œil très pétillant, et donc elle ne pouvait pas s'opposer à tout. Mais elle est quand même à l'origine de certaines exclusions. Je pense par exemple au chef du protocole Claude Mantel, qui était un prêtre défroqué, pourtant ancien anciens compagnons de la Libération, donc, et De Gaulle comme elle, d'ailleurs, ont préféré l'écarter de l'Élysée.
La curiosité continue sur RTL à venir. Germaine Coty qui entre dans les lieux en janvier 54. Celui qui lui apprend la nouvelle de l'élection de son mari s'appelle Philippe Bouvard. Il nous raconte dans un instant.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Avec l'historienne Joëlle Chevet, on découvre l'histoire des femmes à l'Élysée, des premières dames. Est-ce qu'on emploie ce mot depuis très longtemps, première dame, pour parler de ces femmes en France ?
De façon habituelle, c'est très récent, depuis, je dirais, la fin du mandat des Chirac. En fait, le terme a été attribué pour la première fois en 1935 à Marguerite Lebrun, qui faisait un voyage aux États-Unis sur le Normandie. Les Américains étaient ravis de l'accueillir et on traduit dans le texte First Lady en première dame. Donc, c'est la première fois qu'on utilisait le terme. Mais il n'a pas été utilisé. En général, on disait la présidente. C'était l'usage de donner le titre du mari, comme on disait Madame la maréchale.
C'était mieux, ça.
On disait Madame la présidente.
Elles sont forcément ces dames présidentes ou premières dames sous les feux des projecteurs. Elles sont observées, elles sont critiquées, détaillées. Quelle fut la plus populaire d'entre elles ?
Alors, tout dépend si on remonte plus haut. Il y en a un certain nombre qui ont été populaires. Ça, on peut le dire. La maréchale Mac Mahon l'a été. Madame Sadi Carnot aussi. Marie assassinée. Donc voilà. Paul Doumer, Marie assassinée aussi. Quatre fils tués à la guerre de 14. On en a fait des héroïnes. Hein, on l'a oublié, ça.
Et puis, il y a une histoire. On va s'arrêter sur cette histoire. C'est celle de Germaine Coty. Parce qu'elle a été à la fois très impopulaire et très populaire. Vous allez nous raconter comment. Elle rentre à l'Élysée en janvier 54. Son mari a été élu quelques jours plus tôt, le 23 décembre 53. Et un jeune reporter arrive dans le domicile des Coty pour recevoir ses premières impressions. Il s'appelle Philippe Bouvard et il nous raconte.
Elle ne savait pas encore que c'était la femme du président. Lorsque j'ai frappé à sa porte, on m'avait dit « Va donc prévenir Madame Coty que son mari est le nouveau chef d'État ». Alors bon, je sonne, elle m'ouvre avec un grand tablier blanc. Elle me fait asseoir, elle m'offre un petit verre de je ne sais pas quoi. Et elle m'a dit « Qu'est-ce qui vous amène ?» Je dis « Madame, votre mari vient d'être élu président de la République. » « Ah !» me fait-elle, pas tellement surprise, ni en tout cas effarée. Je lui dis « Alors, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et là, elle a cette réponse historique dont je garantis l'authenticité, puisque c'est moi qui l'ai recueilli. Elle dit « Je vais lui faire une tarte ».
Voilà, très, très tranquille, Germaine Coty. Joëlle Chevet, dans votre livre « L'Élysée au féminin », vous la décrivez comme une femme naturelle, par exemple avec la maréchale Delattre de Tassigny, à qui elle fait visiter les appartements privés de l'Élysée. Quelle phrase emploie-t-elle quand elle arrive devant la chambre à coucher ?
Alors, évidemment, il y a deux lits, il y a des lits jumeaux dans la chambre à coucher, donc elle fait remarquer à la maréchale qui était très aristocrate, elle lui fait remarquer que là, il y avait deux lits, mais quand on était jeune, on n'en avait qu'un. Laissant supposer, évidemment, comme c'était un couple en plus très uni, c'est vrai, très amoureux, leurs petits-enfants se moquaient d'eux. Quand Coty l'appelait mémère et l'embrassait devant ses petits-enfants, il disait vraiment, ils sont ridicules.
Autre souvenir amusant, Joëlle Chevet, c'est celui d'une visite du couturier Pierre Balmain. Ça se passe pas très bien avec Germaine Coty, pourquoi ?
Ah oui, là, elle le rencontre dans les couloirs, elle l'a confondu avec le plombier. Alors là, il n'a pas aimé du tout Pierre Balmain. Il s'est senti... Il faut dire aussi que les couturiers n'étaient pas invités jusque-là. C'est Madame Auriol qui a commencé à faire rentrer les couturiers, je dirais, dans l'aristocratie des gens qu'on invitait à l'Élysée.
Et du coup, donc on va en venir à sa popularité, elle a d'abord été brocardée, mais même assez violemment par la presse de l'époque.
Oui, assez violemment sur son physique. Tout simplement, puisque c'était une dame... elle avait plus de 60 ans, elle était très ronde, grand-mère. Ayant été élue son mari un 23 décembre, alors elle a eu droit à la bûche de Noël. On l'a appelée Madame d'État, on l'a appelée Madame Sanguaine. Ce à quoi René Coty répondait avec beaucoup d'humour. Sanguaine, mais sans scandale, c'est-à-dire les fameuses gains de scandale de l'époque.
Ça veut dire qu'elle n'avait pas de directeur de com, personne ne s'occupait de son image et de...
Et non, à l'époque, non. Personne, y avait un service de presse pour le président, mais pas pour madame. Et donc, c'est là qu'on a suggéré à René Coty de lui donner une attachée de presse qui allait lui reconstruire une image, d'autant que toute la presse, quand même, s'est indignée qu'on la traite comme ça.
Et donc ça a marché, quand ça même, ouais.
Voilà, tout à fait, on est après-guerre et on dit quand même, on veut une femme qui représente les valeurs traditionnelles et tout, et voilà comment vous la traitez. Et donc elle a eu, pour la première fois, une attachée de presse, Claude Salvi, qui a donc reconstruit l'image de Madame Coty auprès surtout des magazines féminins.
Des premières dames qui font de la politique comme l'impératrice Eugénie. Dans un instant sur RTL, on vous raconte comment Napoléon III a imposé sa présence en Conseil des ministres.
Vous écoutez RTL.
Que ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir le bonheur et la santé n'oublient pas ceux qui sont moins favorisés.
Je cherche une femme.
RTL. Il faut que le président de la République ait quand même une certaine distance. Moi, c'est une chose, mais lui, c'en est une autre.
La femme du président de la République n'a pas de rôle. Elle a celui qu'elle veut bien se donner. Moi, c'était celui-là.
La curiosité est un vilain défaut, jusqu'à 15h sur RTL.
Anne-Émile Giscard d'Estaing, Bernadette Chirac, Daniel Mitterrand, comment les premières dames ont-elles occupé l'Élysée? Quel pouvoir y ont-elles exercé? C'est ce que nous dévoile notre invitée, l'historienne Joëlle Chevet. On va parler de la femme d'un empereur. Alors évidemment, ce n'était pas une première dame, c'était l'impératrice Eugénie. Donc c'est Napoléon III. À quel moment entre-t-elle à l'Élysée? Elle est toute jeune?
Alors, on peut s'étonner d'abord que je parle de l'impératrice Eugénie dans un livre sur les premières dames, mais c'est vrai qu'elle peut servir et de modèle et à la fois de contre-modèle aux premières dames. On n'aura pas le temps de tout expliquer, mais enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'Élysée, elle n'a pas vécu à l'Élysée. Mmh. Elle y a passé la première nuit avant son mariage.
D'accord.
Et ensuite, elle a habité les Tuileries, Fontainebleau, Compiègne, les palais, donc les palais impériaux. Par contre, ils avaient fait aménager en effet l'Élysée et ils y recevaient de temps en temps le lundi. Ils organisaient. Mais bon, l'Élysée n'est pas du tout une résidence impériale à ce moment-là.
Et en c'est une toute jeune femme quand elle arrive en France.
Elle est toute jeune. Elle a 25 ou 26 ans. Ah, quand elle arrive en France, elle est beaucoup plus jeune que ça. Elle arrive enfant en France. Hein. Mais donc quand elle épouse l'empereur, elle a je crois 23 ou 24 ans, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus. Et donc surtout, ce qui est intéressant, c'est le rôle qu'elle a joué sur le plan politique.
Oui, parce que ce sera pas une potiche aux côtés de Napoléon III. C'est lui qui la forme à la politique. Pourquoi
c'est d'abord lui qui l'a choisi, c'est-à-dire qu'il fait carrément un mariage d'amour, c'est pas du tout un mariage imposé. Alors, il faut dire que toutes les princesses européennes l'avaient refusé, hein, Napoléon III. Donc, bon, du coup, il a fait son choix tout seul, en disant, il vaut mieux que je sois heureux. Il a quand même choisi une princesse étrangère, ce qui était dans la tradition monarchique, pour ne pas favoriser une famille française. Donc là, il fait quand même un choix politique, mais surtout, il l'associe carrément à la politique, et en particulier, elle participe au Conseil des ministres.
Elle y tient quel rôle? Elle y tient quel rôle, Eugénie, dans
Alors,
le Conseil des ministres?
Je dirais très silencieux, mais elle travaille tous les dossiers, elle sait la Constitution par cœur, elle est passionnée de politique très vite. Alors, il la tient pas au courant de tout non plus, hein, mais reste quand même qu'il la forme, parce que d'abord, lui est beaucoup plus âgé, le prince impérial est très jeune, et donc il sait qu'elle aura à un moment ou à un autre à exercer la régence. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressée encore dans l'affaire, c'est le féminisme d'Eugénie. C'est-à-dire que c'est une femme qui va, grâce à ses relations avec le ministre de l'Instruction de l'époque, Victor Duruy, elle va pousser pour l'éducation des femmes. La première bachelière, c'est grâce à Eugénie. Les femmes décorées de la Légion d'honneur pour leur génie artistique, etc., Rosa Bonheur par exemple, c'est Eugénie. Et beaucoup d'autres innovations par rapport aux femmes, où elle a lutté vraiment pour que les femmes soient reconnues dans leur talent à l'égalité des hommes.
Et c'est, elle avait par exemple, elle était impressionnée, elle avait pris presque pour modèle, je ne sais pas si c'est le bon terme, Georges Sand.
Elle n'a pas pris pour modèle Georges Sand, elle l'a défendu, par contre elle l'admirait. Georges Sand, n'en a pas d'ailleurs, il n'en a pas été très reconnaissant.
À quelle occasion Eugénie défend Georges Sand?
Elle avait eu un procès pour un de ses romans et donc l'impératrice Eugénie a pris son parti. Mais reste que réellement, c'est un féminisme affirmée. Elle a profité d'un voyage de Napoléon III, par exemple, pour essayer de changer le code civil. Alors là, Napoléon III a dit non, on ne touche pas à l'œuvre de tonton, pas question, on ne touchera pas au code civil. Elle a quand même essayé.
Joël Chevet, vous publiez L'Élysée au féminin aux éditions du Rocher. On y découvre que tous les actes de l'impératrice Eugénie étaient évidemment observés, par exemple quand elle accouche du prince impérial. Que refuse-t-elle à ce moment-là?
Ah oui, ce qu'elle a refusé, en fait, c'est d'être anesthésiée au chloroforme. C'était devenu un petit peu la mode, je dirais, et en particulier en Angleterre, où la reine Victoria avait eu beaucoup d'enfants, et les derniers, elle avait accepté donc le chloroforme, ce que n'a pas accepté Eugénie pour le seul enfant qu'elle ait eu de Napoléon III. Elle n'était pas du tout intéressée par les choses du sexe, nous dirons. Elle disait, je ne comprends pas comment les hommes aiment faire ce genre de choses. Alors, personne n'a jamais compris encore, mais enfin bon. Elle n'en a fait qu'un.
Les secrets de génie.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
La curiosité de découvrir les secrets des premières dames, toujours avec l'historienne Joëlle Chevet. Alors c'est sous la Troisième République que cette fonction, la fonction de première dame, va en quelque sorte être inventée par plusieurs femmes qui étaient toutes confrontées plus ou moins au même dilemme. Lequel, Joëlle Chevet?
Alors,
je
ne veux pas vous contredire. En fait, il n'y avait pas de dilemme pour les premières.
Non.
Les premières.
À la fois reine et ménagère, c'est ce que j'ai trouvé dans votre livre.
Oui, mais elles sont avant tout des épouses soumises au code civil.
Oui.
Donc, jusqu'en 1938, la femme, elle obéit à son mari et elle le suit. Donc, pour les premières dames de la Troisième République, elle ne se pose pas la question et l'opinion ne se pose pas la question non plus sur le rôle qu'elles tiennent à côté de leur mari.
Oui, mais quand même. Reine, parce qu'on a eu beau se débarrasser des rois, il y a toujours cette image, et ménagère, parce que c'est.
Mais sous la Troisième République, elle est très vite évacuée, à partir de Grévy, un petit peu Madame MacMahon, qui était monarchiste. Mais bon, à partir des Grévy, on est vraiment dans la République des Républicains, qui ne veut pas du tout être confondue avec la monarchie. Et qu'est-ce qu'on demande à une femme à ce moment-là? Gardienne des mœurs, ménagère de l'Élysée, je dirais, donc à un plus haut niveau. Mais on ne lui demande rien d'autre, et surtout ne pas parler politique. Puisque la loi Salique, là, elle est encore au fond des consciences.
Ça reste ça, d'une certaine façon.
Bien entendu, ça reste aujourd'hui encore, où la place des femmes en politique est encore conditionnée par ces archaïsmes, et où la femme n'a pas de parole politique à proférer. Donc, toutes les dames de la Troisième République vont faire de la représentation, s'installer à l'Élysée, recevoir le mieux possible, faire la conversation. Alors, pour certaines, ça sera un peu dur. on va les critiquer. Mais voilà, donc on ne se pose pas la question. Elles suivent leur mari, elles ont suivi en général l'ascension de leur mari, et elles arrivent à l'Élysée, où elles vont jouer le même rôle qu'une citoyenne normale, mais à un niveau évidemment qui est présidentiel.
Merci beaucoup Joëlle Chevet, votre
Merci
livre
Joël.
L'Élysée au féminin de la 2e à la 5e République est publié aux éditions du Rocher. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.